Armand, chapitre 7. Le soir même, je prétextais, pour sortir après le dîner, d'un besoin d'isolement que Jeanne respectait sans le comprendre, tout en se persuadant, avec l'arrière-pensée qui naissait dans son esprit à propos de tout, qu'il fallait savoir se sacrifier dans le présent afin d'être heureux dans l'avenir, qu'une femme ne devait jamais s'opposer au désir de l'homme si elle tenait à le garder. Plusieurs fois, dans l'après-midi, j'avais songé à Marguerite et éprouvé une gêne à respirer lorsque mon attention, après s'être portée ailleurs, était revenue sur elle. Les trottoirs mouillés, noirs comme s'ils eussent été neufs, luisaient, parsemés de cailloux blancs. Le vent avait séché. Surpris, éclairés en transparence par la lune, les nuages, comme refroidis, demeuraient immobiles. En marchant, j'essayais d'imaginer la chambre de Marguerite. Elle m'apparaissait tantôt grande, tantôt petite, parce que j'étais certain que ni les unes ni les autres ne ressemblaient à la réalité. Je m'en représentais toujours de nouvelles pour que, parmi toutes ces chambres, il s'en trouvât au moins une qui approcha celle de la sœur de Lucien. Une écorce fine, qui se fût cassée trop tôt si on avait voulu l'arracher, recouvrait les grosses branches des arbres. Les réverbères, comme de petites forteresses, étaient surmontés de créneaux. Bientôt, je me trouvais devant l'autel près duquel, quelques heures auparavant, Marguerite m'avait quitté. L'enseigne lumineuse était éclairée. La porte, si petite que n'importe qui eût pu se permettre de la fermer, était entrebâillée comme la nuit quand un locataire oubliait de la pousser. Je pénétrai dans le couloir étroit, orné d'une longue glace en plusieurs morceaux, ainsi qu'au temps où on l'inventa. Le patron de l'hôtel relisait le nom de ses locataires dans le livre de police. Par pudeur, je ne lui demandai que l'étage de Marguerite. Quand il ôta ses lunettes pour me regarder, il me sembla qu'il ne me voyait plus. Je montai l'escalier, dont les paliers étaient si courts que les marches de l'étage suivant commençaient avant que j'eusse le temps de me reposer. Tout était refait à neuf. Pourtant, la vieillesse de l'immeuble émanait de tout, des murs rugueux sous la peinture lisse, des plaques des compteurs repeintes sans avoir été ouvertes, des rainures des portes, des clés qui penchaient dans les serrures, de l'éclairage au gaz. Je n'étais pas ému. Arrivé devant la porte de Marguerite, que j'avais trouvée tout de suite dans la demi-obscurité, j'hésitais à frapper, craignant subitement que Lucien ne m'eût menti, qu'il ne fût là, que cet enfant ne fût sa maîtresse. J'écoutais, tournant la tête de côté et d'autre, car j'oublie toujours quelle est mon oreille qui entend moins bien que l'autre. Aucune lumière, aucun bruit ne venait à moi. Dans une pièce voisine, un homme et une femme parlaient à voix basse. J'ôtais mon chapeau d'avance. Je changeais mes cigarettes de poche. Il me fallut quelques secondes pour trouver le juste milieu de ma pochette. Je frappais doucement, comme on frappe le soir. Dans l'ombre, je cherchais à refaire ma raie. Elle était plus courte que je ne le pensais. Je la remontais d'un doigt, essayant de reculer sa naissance au travers de mes cheveux emmêlés. Marguerite ouvrit si vite qu'elle aperçut ma main se baisser, qu'elle ne sut d'où elle venait. Elle eut un sursaut. J'avais avancé un pied pour qu'elle ne pût refermer la porte. Pourtant, je n'osais entrer. Ses cheveux, encore tressés, pendaient dans son dos et, comme ceux de toutes les femmes, me déçurent par leur peu de longueur. Elle tremblait. Son émotion était faite en partie du respect que je lui imposais, en sorte qu'elle était hésitante, qu'elle était partagée entre le désir de fermer et d'ouvrir la porte toute grande. À la fin, elle s'effaça, puis poussa la porte doucement. en gestes rapides et courts, comme si elle avait été vêtue d'un peignoir qu'elle eût dû en même temps tenir fermé, elle s'employa à dissimuler du linge, des assiettes, à cause d'une pudeur lointaine de ce qui est blanc. Bien que la chambre fût petite, elle était froide. La fenêtre droite dans un mur en pente était close. Le lit, bordé avec soin au pied, ne touchait pas le mur à cause de l'humidité. Des objets inutiles encombraient les meubles. Comme moi, au temps où je vivais seul, elle ne se résignait pas à jeter les boîtes et les flacons qui témoignaient de l'argent dépensé. Une lampe éclairait la pièce. Marguerite alla chercher une chaise, la traîna derrière elle comme les enfants qui font des rails. Je m'assis. J'étais embarrassé. Il m'apparaissait subitement que j'avais été trop loin, que j'usais de l'impression que je produisais pour venir le soir chez cet enfant. À son tour, elle s'assit. Nous étions l'un en face de l'autre sans qu'aucune table ne nous séparât. Elle était vêtue d'une camisole et d'un jupon de flanelle, à cause de ce respect des pauvres pour la flanelle, et chaussée de pantoufles transformées en mules par paresse de se baisser. Nous restâmes ainsi un long moment, si long qu'il permit à un locataire de gravir l'escalier entier. Elle était plus calme que lorsque je l'avais quittée. Elle regardait autour d'elle, furtivement, de crainte de n'avoir oublié sur un meuble un objet qu'elle aurait voulu me cacher. Elle eut soudain reconnu l'un d'eux qu'elle n'eût pas osé se lever, qu'elle se fût efforcée par un raisonnement d'en justifier la présence. Une voix, coupée au moment où l'on allait comprendre, s'éleva dans une pièce voisine. Puis une porte claqua avec tant de force que des objets tremblèrent, que la lampe fuma une seconde, que nous baissâmes les paupières. Nos yeux, au milieu de ce qui les entourait, se rencontrèrent en s'ouvrant. Un peu de bruit montait de mes pieds quand je remuais l'orteil, comme au temps où j'étais pauvre, pour sentir s'ils étaient mouillés. Mes tempes, si minces, entendaient le battement de mes artères, mes narines, l'air qu'elles filtraient. Les bruits ne venaient que de moi, de mes mains quand je les fermais, de ma bouche quand je goûtais ma salive encore parfumée de café, de mes oreilles elles-mêmes, que mes yeux, en se baissant, faisaient parfois crier. Les mêmes bruits, Marguerite devait les percevoir, venant d'elle-même. Comme moi, elle les épiait et, plus timide, les redoutait. Je fis le geste ridicule d'approcher ma chaise de la sienne. Elle parut ne pas s'en apercevoir. La tête inclinée, les mains jointes, mais pas comme sur un tableau, pas l'une exactement contre l'autre, elle réfléchissait. Devant tant de résignation, de faiblesse, de pauvreté, je fus pris de pitié. Pourtant, elle était heureuse. Elle ne disait rien. Elle se contentait de goûter ma présence sans en chercher la cause ni le but. J'approchai encore ma chaise. J'aurais aimé à lui parler à voix basse, à être près d'elle pour la rendre semblable aux autres femmes, pour lui apprendre à se défendre. Mais je me taisais. Elle ne comprenait pas toute l'amitié que je lui portais. J'étais pour elle l'homme qu'elle avait attendu sans le savoir, qui devait un jour venir. De nouveaux sentiments naissaient en elle, si différents des miens. Dans un mouvement que je ne commandais qu'à demi, je pris ses deux mains jointes en souhaitant qu'elles se séparassent, que l'une d'elles seulement me restât, pour qu'elle fût plus petite entre les miennes, pour que je pusse en caresser la paume. Mais, au contraire, elle les serra plus fort. Mon regard se porta alors sur ses bras. Ils étaient plus blancs du côté qui se trouve le long du corps, du côté que le soleil n'atteint jamais. Marguerite ne se défendait pas. Sa lèvre inférieure tremblait parfois, comme si, d'émotion, elle oubliait de lui commander. J'examinais ses doigts, un à un, ne tenant que celui que je regardais, m'attardant sur les plus longs, comme s'ils méritaient de retenir le plus l'attention. Je me penchais sur ses mains, pas trop, pour pouvoir les caresser sur la longueur, l'esprit absent, ému par la vie sans joie de cet enfant. Les hommes lui apparaissaient possesseurs de tant de dons que, bien que je me tinsse courbé, elle ne devait pas oser me regarder de peur que je ne l'eusse su par un moyen qu'elle ignorait. Alors, sans penser, à cause de la douceur qui m'enveloppait, je posai mes lèvres sur ses doigts. Elle les écarta pour que je ne les embrasse pas, se leva d'un bond, se réfugia dans un coin de la pièce, derrière une malle autour de laquelle elle eût pu tourner si je l'avais poursuivie. Je m'étais levé. Elle me toisa un instant des pieds à la tête. Puis, elle s'approcha de moi, me tendit la même main qu'elle venait de me retirer. « Ne m'en veuillez pas, monsieur. » Je lui pris le bras. Debout, il eût semblé que nous allions nous séparer si, moi aussi, je lui avais tendu la main. La tête penchée, elle paraissait commettre une faute. Je voulus la serrer contre moi. Elle se défendit avec douceur, me fit lâcher prise de ce même geste si violent au théâtre. Libre, elle s'assit sur le lit, et pour que je ne fusse pas fâché, me saisit la main, en appuya l'extérieur contre sa joue, parce qu'elle s'était souvenue que la paume se pose sur tous les objets. À mon tour, je m'assis près d'elle. Je tentais de lui faire lever la tête, comme à un enfant, en lui tenant le menton. Ma main prisonnière, si je l'avais retirée, facilement, puisque le plus grand côté se trouvait vers moi, eût fait tout écrouler, ainsi que dans un échafaudage. Je ne bougeais plus, comme si un de mes mouvements eût fait manquer une photographie. À la fin, je la saisis par la taille. La courbe du poignet, avant qu'il trouvât un appui, m'apparut ridicule. Mon visage était proche du sien. Ses lèvres tremblaient avec plus de délicatesse que celle d'un homme. Elle s'appliquait à ne pas me résister, parce que dans son esprit, j'étais celui qu'elle devait aimer, qui ne se présenterait qu'une fois. Elle croyait à l'occasion. Elle avait toujours peur de la mal discerner. L'exception lui servait de pierre de touche. Aussi, à cause de ce qu'il y avait d'exceptionnel en ma présence dans sa chambre, eut-elle la certitude que j'étais cette occasion qu'elle attendait depuis si longtemps. Je lui faisais face pour que ce fût mon front, dont la peau est plus douce que celle du visage, qui se posa le premier sur ses joues. J'étais calme. Aucun désir ne me poussait à m'approcher d'elle plus encore. Je la serrais pourtant contre moi, sans force, parce que je n'osais faire le tour de sa taille. « Que faites-vous ? » Elle ne se défendait toujours pas. Soudain, par calcul, elle s'éloigna de moi. Comme toutes les femmes, elle pensait que plus tard, je lui reprocherais de s'être abandonnée trop facilement. Mais il apparaissait nettement que ce changement était prémédité. Elle s'en rendait compte, au point de ne plus oser persévérer dans cette attitude, de crainte de ne lasser ma patience, de n'être obligée par la suite de s'humilier pour que je ne la quittasse pas. Alors, par pitié de tant d'inquiétude, je l'embrassai sur la bouche. Elle la tint fermée. Mon baiser ne fit aucun bruit. C'était mes lèvres seulement qui s'étaient posées sur les siennes. Devant cet enfant partagé entre sa vertu et la volonté de ne pas me froisser, je fus pris de remords. Je me levai, mais restai courbé, le visage à la hauteur du sien, pour qu'elle ne crût pas que je la fuyais. Malgré moi, parce que j'étais plié en deux, je hochai la tête comme si j'eusse voulu faire rire un enfant. Elle me regarda avec étonnement, puis, des yeux, me montra une place à côté d'elle. Je sentis que je ne devais plus rester, sans quoi j'eusse laissé naître en elle des espoirs que, plus tard, il eût fallu dissiper. Je me redressai. « Il faut que je parte, Marguerite. Il est tard. » C'était la première fois que je prononçais son prénom. Une seconde, Je craignis que seul Lucien ne l'appelât ainsi, qu'elle ne portât un autre nom. Je n'avais pas regardé ma montre. Je lui dis qu'il était 11 heures. Elle le crut, comme si je ne pouvais me tromper. Elle se leva, les jambes contre le lit, prête au moindre défaut d'équilibre à tomber en arrière, elle me dévisageait. Elle pensait que ce n'était pas l'heure qui eût dû nous séparer, mais un réconfort total. Après avoir prononcé des paroles plus douces et plus générales, je m'apprêtais à sortir. Pour elle, ces paroles étaient les mêmes que si je fusse resté à son côté. Je pris mon chapeau, en refis la fente, et, bien qu'il me soit désagréable de me couvrir dans une pièce, le mis sur ma tête. Elle ne s'approcha pas de la porte, soit pour l'ouvrir, soit pour me barrer le passage. Comme j'allais sortir, elle courut à moi, balbutia quelques mots et se mit à sangloter. « Remettez-vous, Marguerite, je reviendrai vous voir, mais il faut que je rentre. » Je faillis dire que Jeanne m'attendait, habituée que j'étais à me séparer de tout le monde sur ces mots. Elle se calma, recula un peu. J'ouvris la porte, juste assez pour passer, afin que le noir du palier n'accentuât pas sa détresse. Une fois dehors, je passai bêtement la tête dans l'embrasure et lui souris. Elle ne répondit pas à mon sourire, et, avant que je disparusse, elle s'occupa vite de ranger des objets pour me montrer comme elle serait lorsque je l'aurais quittée. Un réverbère sur deux était éteint. Des nuages, aussi clairs que dans le matin, traversaient le ciel, du levant au couchant cette fois. La lune n'était qu'un mince croissant. Une tache pâle demeurait encore sous la place qu'elle avait occupée lorsqu'elle était pleine. Je pensais à Marguerite. À présent, je regrettais de m'être laissé aller à l'embrasser. Elle pouvait tout raconter à son frère. Cette supposition que son éloignement rendait possible me harcelait. La tournure inquiète de mon esprit faisait qu'à certains moments, je n'en doutais plus. Un taxi, éclairé comme un fiacre, passa près de moi. À cause d'une crainte enfantine des rôdeurs, je marchais loin des murs. Je ne cessais de songer à la visite que je venais de rendre. Un à un, tous mes actes se présentèrent devant mes yeux. Il m'apparut soudain que j'avais trompé Jeanne, qu'elle allait l'apprendre, qu'il se passerait, entre elle et moi, une scène terrible. J'eus un sursaut. Je n'avais qu'à nier. Aucun témoin ne me contredirait. J'étais même plus digne d'être cru que Marguerite. J'entrai dans un café à moitié éteint. Je pris un boc. Je demandai l'heure comme, enfant, on m'avait appris à le faire. Il n'était pas tard. J'aurais pu encore flâner, ainsi que les autres soirs. Mais j'eus l'impression que de longues heures me séparaient de Jeanne, qu'elle était peut-être tombée malade, que des parents lui avaient rendu visite, qu'elle attendait avec impatience mon retour. La veilleuse électrique était allumée. Jeanne dormait sur le dos. Sa montre, qu'elle ne posait jamais sur le marbre, se trouvait sur un livre. Pour qu'elle sût l'heure à laquelle je rentrais, je l'éveillais, non sans avoir hésité sur l'endroit de son corps que je devais toucher. Son regard me rassura. Encore ensommeillé, il ne pouvait deviner ce qui s'était passé. Je baissai les yeux, comme Jeanne, quand elle craint d'être trop décolletée, comme quand je tente de voir mon nez. Il n'y avait rien d'anormal sur moi. Pourtant, je sentis que mes mains avaient la chaleur d'un corps plus chaud que le mien, que l'air de la rue avait à peine refroidi ma veste, que, si je l'eusse ôté, ma poitrine et mes bras eussent été brûlants. Jeanne parla, et avant que je comprisse ce qu'elle disait, je devinai qu'elle ignorait ce que je venais de faire. Elle dormait sans épingle. Elle n'avait pas boutonné le col de sa chemise de nuit, de crainte de s'étrangler dans son sommeil. « D'où viens-tu ?» Par une peur inexplicable du toucher, je n'osais répondre que je m'étais promené. « Je viens du café. » Elle m'examina, ce qui m'effrayait quand son regard se portait autour de mon col, que je ne peux voir, même en baissant la tête, avec une pénétration telle que je n'eusse pas été étonné si elle avait deviné une adresse, un nom. « Armand, viens près de moi. » J'eus un éblouissement. Il me sembla que tout était perdu, que j'avais oublié quelque chose dans mes poches qu'elle allait savoir. Je m'assis sur le bord du lit, à ses pieds, droit sous les couvertures, seule partie d'elle-même qui ne suivait pas la ligne du corps et qui m'apparut aussi grotesque que le support des jouets quand ils sont tombés. « Tu as été chez une femme. » Cette parole me fit rougir. J'eusse rougi, même si je n'avais pas été chez Marguerite, comme je rougis quand on parle d'un vol près de moi. Je souris. J'essayais d'être le même que lorsque je ne rougis pas. À force de volonté, je parvins à parler d'une voix naturelle, au point que Jeanne dut penser que j'avais le sang à la tête à cause de la chaleur. « Tu as été chez une femme. » Elle répétait ce qu'elle venait de dire. Il n'en fallut pas davantage pour que je reprisse confiance. Maintenant, elle m'irritait. Rarement je me fâche. Cette fois, je ne pus me contenir d'être soupçonné sans preuve. « Ah, tu m'agaces, Jeanne. Je sais que tu as été chez une femme. » Alors, je me mis à lui parler durement. Son visage s'éclaira. Elle était heureuse. Ma colère lui prouvait mon innocence. Elle ne remuait plus, de peur qu'un geste ne risquât de m'interrompre. Je devinais qu'elle souhaitait que je continuasse encore longtemps sur ce ton. Mais, au bout d'un instant, de voir que mes paroles emportées lui donnaient une telle certitude de mon innocence, m'emplit de remords. Je me tus. Elle me prit la main. Bien qu'elle sût que je n'aimais pas qu'elle l'embrassât, elle la porta à ses lèvres.